Alors donc le but de mon propos, c'est de présenter effectivement la position de Rousseau sur l'allaitement maternel qu'on trouve dans l'Émile, dans le livre 1 et dans le livre 4, et qui constitue vraiment une très fervente défense de l'allaitement maternel, qui en un sens fait écho au texte d'Olugel, et qui va en même temps avoir des différences fondamentales, notamment sur le point qui a été exposé, à savoir que le plaidoyer en faveur de la récupération de l'allaitement par la mère et donc le non-recours aux nourrices ne s'appuie pas sur la question de l'hérédité et même sur la question du lien du sang. Voilà. C'est le sens principal du texte de Rousseau qui va opérer un déplacement du lien du sang comme source héréditaire au lien du sang comme source d'un attachement immédiat et d'une conformité immédiate de la femme en tant que mère aux besoins de l'enfant. Alors, juste avant vous avez une série de textes extraits de l'Émile. Merci aussi d'avoir évoqué François d'Héritier, parce que je n'avais pas pu m'empêcher de mettre un extrait en écho de Rousseau, parce que le contrepoint est important, d'autant plus que la position de Rousseau est porteuse de modernité, donc il fallait, je pense, aussi la nuancer. Juste avant d'exposer les arguments et l'interprétation extrêmement en fait, originale et assez puissante que Rousseau propose de l'allaitement, qu'on peut en fait transposer à un certain nombre d'autres soins de la petite enfance, je vais très rapidement essayer de caractériser la situation de Rousseau en général entre l'Antiquité et la Modernité, parce qu'en fait sa situation se reflète exactement dans les problèmes soulevés dans la question de l'allaitement. Je vais être un petit peu caricaturale, mais je pense que c'est important pour voir comment il va interpréter cette centralité de l'allaitement maternel dans le développement de l'enfant. Si on va très vite, alors d'abord il y a un fait très important qui est que Rousseau lui-même a été nourri à la culture antique, enfant, a baigné dans la projection rétrospective de la Rome antique, de la Grèce aussi, et ça constitue pour lui une matrice conceptuelle pour le coup très forte, qui repose sur un souci central, à savoir essayer de se référer à un idéal politique dont il considère qu'il a intégralement disparu dans la société de son temps. Donc l'Antiquité fonctionne vraiment comme un modèle pour essayer de penser, pour de revivifier ou de ranimer ce qui lui paraît être la condition de possibilité d'un vivre en commun humain, à savoir un attachement à un corps politique, véritablement politique, pas simplement un corps social, et donc permettant de penser une insertion authentique, efficace et complète de l'individu au sein d'une communauté véritablement politique et donc pleinement humaine. Là où Rousseau inaugure de l'autre côté ce qu'on peut appeler la modernité, c'est des faits très 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 connus, mais ils sont importants à rappeler, c'est en complétant cet horizon de communauté politique à réinstaurer ou à ranimer dans la représentation collective, en la complétant par la prise au sérieux fondamentale de la logique de l'individu et des intérêts de l'individu. Alors cette focalisation sur la logique individuelle, intra-individuelle, ce qui fait la manière dont un individu se rapporte à lui-même, on sait qu'elle a des conséquences très importantes dans la théorie politique, bien sûr, dans le contrat social, mais en fait elle va avoir une postérité très considérable dans le champ de la pédagogie, et de la psychologie de l'enfant, et notamment dans la psychologie du développement. Donc on trouve en fait un réseau de récupération de la référence rousseauiste où il intervient vraiment comme inaugurateur quasi révolutionnaire dans les travaux de Vallon, de toutes les pédagogies nouvelles, et pour la psychologie du développement de Piaget, qui en fait prend naissance à ce moment-là, cette idée qu'il y aurait des stades de développement, des moments de développement, l'idée qu'il faudrait, dans la considération de l'enfant pour le comprendre et pour l'éduquer, se calquer en fait sur ce qu'il est pleinement à chaque moment de son enfance. Là, évidemment, il y a un déplacement aussi très fort par rapport à la position d'Olugel, qui considère l'enfant comme un être inachevé. L'un des enjeux de l'Émile, c'est précisément de pousser à considérer l'enfant comme une totalité qui est en évolution, mais qui en fait, à chaque temps de son évolution, est déjà une totalité complète, pleine, et donc qu'il faut respecter en tant que telle. Alors si je résume très rapidement du coup la position de Rousseau entre antiquité et modernité, c'est-à-dire entre le niveau du collectif récupéré à l'antiquité et le niveau de l'individu qui va devenir un peu une matrice majoritaire peut-être dans la représentation de l'humanité contemporaine, on peut la résumer en disant que la contribution de Rousseau, c'est la manière dont il va extrêmement subtilement articuler ces deux niveaux. Donc essayer de comprendre comment le niveau de l'individu peut s'insérer dans le niveau politique et comment le niveau du politique peut préserver le niveau de l'individu. Et ça, ça se manifeste, j'arrive très rapidement à l'allaitement, mais en fait ça, je pense que ça met en place les choses. Cette complémentarité des deux plans et la nécessité de les penser ensemble, en fait, se voit dans la contemporanéité exacte de ces deux grands ouvrages, donc Émile ou de l'éducation d'un côté et le contrat social de l'autre, qui sont tous les deux, qui datent tous les deux de la même année, donc 1762. Donc contrat social, ça je pense que vous le savez globalement, hein, mais expose comment organiser politiquement les relations entre les êtres humains pour préserver la liberté de chacun, pour aller très vite, dans une dimension en un certain sens synchronique. Là où dans l'Émile, qui se présente comme une fiction éducative, comme un traité d'éducation qui passe par un récit inventé de l'éducation d'un enfant très singulier, qu'on va prénommer Émile, même si c'est un enfant fictif, va, en un sens, partir de l'autre côté, considérant l'individu pris isolément depuis sa naissance, en tâchant de comprendre la logique propre de son développement et en essayant de comprendre, au sein de cette logique, comment on peut espérer en faire un être apte à vivre en société, apte à développer des potentialités sociales et une capacité à la coexistence. Et c'est exactement à cette intersection-là que va être réinterprétée d'une manière étonnante la place de l'allaitement maternel. Alors, j'en viens au texte. Juste avant de rentrer un tout petit peu dans le détail des arguments, il y a une remarque à faire sur le caractère du texte lui-même, qui oscille en fait entre deux aspects pas forcément intégralement compatibles. Je développerai ça dans ma conclusion. Mais en gros, on a un premier aspect qui relève d'une analyse concrète, précise, extrêmement complexe des dispositifs nutritifs, sociaux, de relations entre la mère et l'enfant, et une analyse, enfin un ton qui est par ailleurs extrêmement emphatique, extrêmement valorisant, éventuellement moralisateur et carrément prophétique. Et là, il y a un passage du livre 1 qui est étonnant dans sa dimension prescriptive et prophétique, puisque Rousseau énonce le fait que si les femmes recommencent à allaiter leurs propres enfants, progressivement, l'intégralité de la société sera sauvée. Ça, à la limite, on peut comprendre ça dans le cadre rousseauiste en tant que réforme politique, mais il y a des indications et des promesses qui sont un peu plus étonnantes, qui est que en allaitant leurs enfants, elles auront une santé vigoureuse, elles ne souffriront pas pendant leurs accouchements, elles ne mourront pas, après l'accouchement, et par ailleurs, en plus, leurs maris leur resteront fidèles. Ce qui est potentiellement à vérifier éventuellement. Alors si on entre maintenant dans les arguments de la défense ou du plaidoyer de Rousseau en faveur de l'allaitement maternel, il y a évidemment un fait qu'il faut rappeler, qui est qu'à l'époque où Rousseau propose ce plaidoyer, c'est une époque où l'usage du recours à la nourrice est un usage extrêmement répandu. Donc évidemment, il faut aussi contextualiser sa position. Hein. Le caractère très polémique du texte est très prescriptif est fondamentalement lié à une tentative de tordre le bâton dans l'autre sens pour ramener les femmes à leur maternité dans toute sa plénitude. Alors si on résume les arguments, en gros, on peut distinguer trois niveaux. Le premier niveau, c'est de focaliser le regard de l'éducateur, du pédagogue et éventuellement du nutritionniste sur le besoin et l'intérêt de l'enfant. Ça, c'est ce qui, évidemment, est lié à ce que j'ai développé dans le premier temps, le fait que la tâche de la psychologie, de l'anthropologie et de l'éducation, en ce qui concerne les enfants, doit consister à considérer l'enfant dans l'enfant et donc à prendre en compte son besoin et son intérêt. Le deuxième niveau, et qui est un niveau intermédiaire, consiste à considérer la femme comme première éducatrice, la femme en tant que mère comme première éducatrice. Mais alors non pas parce qu'elle elle transmettrait des caractères héréditaires, mais parce qu'elle serait en réalité en tant que mère plus apte à répondre de manière immédiate aux besoins de l'enfant. C'est-à-dire que la logique qui va être développée par Rousseau, ça n'est pas une logique du lien physique, d'identité héréditaire entre la mère et l'enfant, mais c'est une caractéristique de la mère qui tient à sa dimension affective, à la spontanéité affective du sentiment maternel. Un des enjeux qui est derrière, c'est un enjeu de, on va dire, d'accord des temporalités entre la temporalité du besoin de l'enfant et la spontanéité de la réponse de la mère. Le texte 2, enfin, la fin du texte 2 développe ce point-là, parce que la critique qui est faite aux nourrices, de ce point de vue, n'est pas du tout d'être de mauvaise nourrice en tant que de mauvaise pourvoyeuse de nourriture. L'analyse de Rousseau, c'est qu'en fait, une nourrice, pour devenir véritablement intéressée au bien-être d'un nourrisson, en fait, va avoir besoin de temps pour s'y attacher. Donc il y a une temporalité progressive de l'attachement de la nourrice à l'enfant, qui, dans le cas de la mère, normalement, d'après les analyses de Rousseau, est supprimé, c'est-à-dire instantané, alors même que l'enfant va avoir un besoin immédiat de soins. Donc c'est cette dimension-là qui légitime ou qui justifie le primat ou la primauté de la mère par rapport à la nourrice dans la recommandation pédagogique de Rousseau. C'est important aussi d'avoir ça en tête parce que cette nuance permet en même temps de valoriser aussi le rôle de la nourrice quand il est bien effectué, c'est-à-dire le fait de recentrer la valorisation de la femme comme nourricière sur sa capacité affective à s'occuper de l'enfant est aussi en un sens ce qui fait que Rousseau, alors contrairement au texte d'Olugel, va critiquer extrêmement fortement les mauvais traitements réservés aux nourrices et notamment la rupture du lien entre l'enfant et la nourrice, qui est en réalité une source de dépravation largement aussi importante que l'absence du lait maternel. Et enfin, alors, le troisième niveau, qui est le niveau le plus général et le plus englobant, qui synthétise les deux premiers, et où, alors là, on a une forme de proposition philosophique, anthropologique et politique générale, vous la trouvez énoncée dans le dernier texte, celui qui est extrait du livre 4, et qui, comme par hasard, fait référence à la fondation de Rome, enfin à l'origine de Rome, c'est-à-dire à l'idée qu'un allaitement aurait été à l'origine de la constitution d'une des plus grandes républiques, d'une des plus grandes cités. Alors ce niveau-là, si on essaye de le formuler simplement, repose sur un principe assez simple qui consiste à dire que ce qui se joue dans les tout premiers mois d'un individu, d'un être, et dans la manière dont il va recevoir des soins dans le commencement de son existence, du fait d'autres individus, est non seulement la condition de sa subsistance ou de son maintien dans l'existence physique, mais en réalité va jouer un rôle fondamental, puisque cela va constituer la condition de toute possibilité de relation humaine ultérieure, si on entend par relation humaine une relation de réciprocité, de bienveillance mutuelle, et donc de fondement affectif, moral et politique de la coexistence entre les hommes. Bon, je vous renvoie au texte qui dit les choses de manière assez limpide, mais l'idée c'est que la relation de soins que la mère apporte à son enfant, qui en fait est une relation au départ unilatérale, puisque nourrir un enfant, ça n'est pas attendre de lui une reconnaissance immédiate, bien sûr, c'est même éventuellement une forme d'oubli de soi, va en réalité progressivement devenir la condition de possibilité pour lui d'être un être aimant, apte à aimer, apte à reconnaître en l'autre des dispositions morales et apte à développer des dispositions morales en fait en reconnaissant en l'autre une relation de bienveillance. Donc on a une forme de dispositif relationnel qui fait que vous avez une relation au départ unilatérale, la relation de l'allaitement, qui en fait est la condition de toute relation réciproque possible, fondement de l'ordre politique, via cette situation intermédiaire du physique et du moral, qui est en fait la relation affective, qui est la matrice de la relation entre les deux. Alors, pour conclure rapidement, cette défense de l'allaitement maternel, qui en même temps préserve un peu les nourrices de la possibilité d'être sinon des mères, en tout cas des éducatrices, ce qui d'ailleurs va être le cas finalement dans le dispositif fonctionnel, a quand même place dans un texte extrêmement véhément qui nous rappelle, je pense, deux choses. D'une part, que l'allaitement est un enjeu extrêmement mique et qui cristallise en fait les passions, la même où on peut considérer qu'il est le fondateur d'un ordre harmonieux des passions. Et ça, c'est peut-être un des points potentiellement problématiques du texte de Rousseau, notamment parce qu'il assigne évidemment la femme à une certaine place et à une certaine fonction. Mais en même temps, ce texte manifeste un autre caractère qui est de rendre visible le caractère factoriel et dimensionnel du fait de l'allaitement. Et alors, si vous vous donnez un peu le temps d'aller regarder le livre 1 de Rousseau, vous verrez vraiment en détail la finesse avec laquelle Rousseau analyse le fait que, même quand les femmes auraient envie d'allaiter, en fait, la pression idéologique d'une certaine société les empêche potentiellement d'avoir ce comportement. Donc, vous avez tout un ensemble de facteurs nutritionnels, médicaux, sociaux, politiques, genrés aussi, que Rousseau met en place et qui, à mon avis, permettrait de récupérer un principe rousseauiste peut-être contre Rousseau, c'est-à-dire contre le caractère véhément et polémique du texte, ou on va dire de plaidoyer, pour éventuellement appliquer au processus de l'allaitement lui-même et au processus des premiers soins dans la petite enfance, ce que Rousseau applique à l'éducation de l'enfant dans son intégralité, c'est-à-dire un regard extrêmement précis, neutre en fait, et qui prend en compte la densité, la complexité des situations concrètes en fait. Donc vous avez une possible exploitation d'un principe méthodologique de Rousseau d'observation des situations concrètes pour éventuellement instruire la question de l'allaitement, de la maternité ou de la parentalité aujourd'hui. Alors, je pense que ce principe-là, il conduirait peut-être à quitter ce qu'il peut avoir de pro et contra sur la question de l'allaitement pour essayer de considérer ce qui, dans les dispositifs sociaux, médicaux, domestiques, favorise ou entrave un soin véritablement intégral donné à l'enfant dans le respect aussi de ce qui constitue l'insertion sociale de ses parents. Alors, je pense juste à deux choses extrêmement simples, mais typiquement dans les services de maternité, on a ponctuellement des problèmes de séparation entre les services de néonatalité et les services de jeunes accouchés, qui fait qu'en fait, l'allaitement n'est pas possible quand l'enfant a un problème médical. Et puis, il y a un autre enjeu très important qui est la possibilité pour les femmes de nourrir autrement qu'en allaitant sans subir des condamnations morales, mais aussi de pouvoir allaiter de manière pragmatiquement beaucoup plus simple, en transformant éventuellement le regard qu'on peut avoir sur les questions de décence ou d'indécence, et en développant éventuellement des dispositifs rendant possible l'allaitement sur les lieux de travail, qui est évidemment un des problèmes centraux du lien mère-enfant et des premiers soins. Voilà. Ce qui conduirait peut-être à atténuer le caractère véhément et assignant du discours sur le rôle de la femme dans le rapport à l'enfant, en essayant d'examiner les situations concrètes. Voilà.